Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Nous allons parler de la culture de l'entrepreneuriat, comment promouvoir la culture de l'entrepreneuriat avec le professeur Val Massamba. Il est coach en entrepreneuriat et directeur général des IF Entrepreneuriat. Professeur Val Massamba, bonjour. Il n'est pas encore en ligne, on me fait signe. On l'aura certainement dans quelques instants. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net, postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Marcel Ngombo assure la coordination, Tati Mapoukou est à la réalisation, Jody Daniel Keshama au micro, Alain Goy à la mise en onde. Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine au Capi Service.
Au Capi Métissage, fais le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Au Capi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Capi.
Bien, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service de la promotion de la culture entrepreneuriale en RDC. De plus en plus, il y a cette dynamique de développer la culture de l'entrepreneuriat. Il y a même une loi pour promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, des structures à gauche et à droite. On a eu des projets comme le PADEM PME et d'autres transformes qui vont encore arriver. Eh bien, nous recevons aujourd'hui le professeur Val Massamba. Il est coach en entrepreneuriat, directeur général des IF Entrepreneuriat, qui est un incubateur d'entreprises. Professeur Val Massamba, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission Capi Service. Avant d'aller plus loin, votre structure IF a organisé dernièrement la foire entrepreneuriale pour les PME à l'occasion de ses 15 ans. Alors, qu'est-ce qui avait motivé l'organisation de cette activité et de quoi s'agit-il exactement?
Oui, nous avons organisé une série d'activités dans le cadre de la foire qui comptait sur les 15 ans d'existence de IF Entrepreneuriat pour deux raisons. La première raison, c'était de célébrer notre 15e anniversaire. Vous savez, nous sommes la première structure d'accompagnement par incubation d'entreprise qui a été créée en RDC et qui compte à son actif trois incubateurs d'entreprise, deux pépinières d'entreprise et un quartier industriel pour petite industrie qui a même inspiré un modèle notre pays et plus de 1500 entreprises créées dont les produits sont visibles dans le marché intérieur comme extérieur. 16 000 emplois et la contribution de presque le milliard de dollars en termes de chiffre d'affaires. Mmh. Alors, donc c'était la première raison. La deuxième raison, c'était de rendre compte de nos résultats, évidemment, après 15 ans. Vous savez, aujourd'hui, la culture entrepreneuriale ou la vision entrepreneuriale n'est plus un simple slogan, c'est devenu maintenant une vision portée par le gouvernement de la République et non par les présidents de la République, ce qui était différent il y a 5 ans, mais aujourd'hui c'est porté, ça devient une vision du gouvernement. Mmh. Il fallait quand même ici regarder les choses et montrer que la rentabilité des incubateurs, eh bien ça pouvait se faire dans les 10 ans, et non pas immédiatement après avoir créé une structure d'accompagnement.
Bien. Alors, est-ce que vous pouvez mieux aider nos auditeurs à mieux comprendre ce que c'est un incubateur? On parle souvent d'incubateur. De quoi s'agit-il?
C'est comme ça qu'il faut beaucoup plus parler des structures d'accompagnement des créateurs d'entreprises, parce que il y en a beaucoup de plusieurs types en réalité. Les structures d'accompagnement aident des personnes qui entreprennent ou qui veulent entreprendre à développer leurs capacités techniques et financières de façon à véritablement arriver à mieux piloter leurs entreprises ou leurs projets. Et parmi ces structures d'accompagnement, il y a des incubateurs d'entreprises. Au sens stricto sensu, un incubateur est emprunté de la biologie, hein, comme une sorte d'espace ou d'enclos où on fait émerger des êtres vivants. Véritablement, et ici, un incubateur offre aux porteurs de projets un hébergement physique, c'est-à-dire un espace où ce porteur de projet va développer ses affaires en création, un hébergement juridique, ça veut dire que le porteur de projet n'est pas encore une personne juridiquement reconnue par l'État. Donc, on doit travailler sous le contresens ou sous le nom ou sous la personnalité juridique de l'incubateur. Donc, ces deux éléments-là sont des éléments qui fondent réellement les incubateurs d'entreprise. Et après, on va aider l'individu à concevoir son idée, à les traduire en produit, du produit au projet et du projet à créer son entreprise. Et là-dedans, vous pouvez aussi avoir des incubateurs que je viens de définir, mais aussi des couveuses. Des couveuses, ça veut dire qu'un porteur de projet peut ne pas aboutir à la création d'entreprise, mais en tant que avec un incubateur, dès que son idée a germé et devient techniquement faisable, commercialement bon marché et rentable, il peut le vendre comme ça à la structure qui l'accompagne. Ça, ce sont des couveuses. Après, il y a des structures qui viennent en avant de la création d'entreprise, dans l'après-incubation, où on a des concours entrepreneuriaux, des maisons d'entrepreneurs. On a des structures qui viennent après la création d'entreprise, qui sont en post-incubation, là où on a des accélérateurs, des pépinières d'entreprise, des centres de PME, des zones économiques spéciales, et ainsi de suite.
Bien. Lors de cette foire entrepreneuriale, quelles sont les différentes activités qui étaient au menu?
Je commence d'abord par remercier tous ceux qui ont participé, notamment les entrepreneurs de haut rang, de très haut niveau mondial qui étaient présents. Il y en avait 10 qui sont venus relater leur parcours entrepreneurial. Vous avez le président du Conseil économique et social, M. Kiwakana, de Sessomo qui était là. Vous avez M. Bamani Sapipisi qui était là. Vous avez Jean-Claude Oulance, Majestic River qui était là. Vous avez M. Kassembo Jokotrans qui était là. Félix Amouna qui était là. Vous avez Mme Eliane Moukeni, Mme Yvonne Koussanina. Vous avez toutes ces grandes personnalités qui ont défilé, et même les musiciens, tels que Wazekwa, qui étaient là pour relater leur parcours entrepreneurial. Ça, c'était la première activité, parce qu'il fallait sensibiliser et les jeunes et les PME au développement de l'esprit d'entreprendre. Et après, comme deuxième activité, c'était justement l'exposition des produits de PME. 420 PME étaient au rendez-vous. C'est rare, c'est intéressant, c'était très superbe à voir, avec des produits de haut niveau, à part évidemment les jeunes qui démarrent leurs activités. Troisième activité que nous avons eue, c'était des ateliers sur les freins à l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes à un moment où il faut chercher des solutions idoines hors action gouvernementale. Comment on peut aider véritablement les jeunes à faire émerger leurs entreprises. Et de l'autre côté, c'était les ateliers qui concernaient les gens mariés, c'est-à-dire les entrepreneurs mariés, véritablement, qu'est-ce qui peuvent être de points d'attention concernant leur émergence. Voilà. Et puis, il y a eu des témoignages, des discours des acteurs de l'écosystème du très haut niveau qui étaient là, la Banque mondiale, le PADEMPME, le Fonds national d'infrastructure, le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, et la Wallonie-Bruxelles internationale, dans beaucoup de partenaires qui étaient là, qui étaient venus témoigner, qui ont cheminé avec nous depuis 15 ans et qui ont fait leur témoignage.
Bien, vous avez dit tout à l'heure que la question de l'entrepreneuriat en RDC est aujourd'hui même portée par le gouvernement congolais, le président de la République. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour promouvoir la culture de l'entrepreneuriat dans notre pays? Parce que les gens sont habitués, après les études, à rédiger « J'ai l'honneur », à aller travailler quelque part comme salarié. Mais comment maintenant promouvoir la culture entrepreneuriale?
Non, mais déjà, il faut féliciter. Nous, on est là depuis 15 ans. Je me rappelle encore à l'époque, les gens pensaient que l'incubation, c'était une sorte de machine qui produisait de manière systématique dans une voie technologique des entreprises. Alors, aujourd'hui, ça a changé. Alors, aujourd'hui, les gens commencent à comprendre ce qu'est exactement. Et donc, on a vu comment évoluer la volonté politique là-dessus. Et la volonté politique a déjà commencé à jeter les bases solides pour justement développer cette culture entrepreneuriale. Déjà, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, il faut féliciter le fait que la réforme de l'enseignement inclut dans chaque promotion les cours d'entrepreneuriat. C'est vrai que ce n'est qu'un cours. Il faut qu'on y ajoute les aspects pratiques avec de coaching et créer un environnement d'éclosion d'entreprise dans les universités. Mais déjà, cette réforme-là, elle est déjà salutaire. Deuxièmement, vous avez vu avec le ministère des PME en lien avec le PSP, comment on est en train de concevoir des cours encore pour enseigner l'entrepreneuriat dès le bas âge au niveau de l'école secondaire et école maternelle. C'est déjà un effort aussi. Troisièmement, vous avez vu vous-même tous ces projets de haut niveau que le gouvernement pour lesquels le gouvernement a contracté des prêts avec la Banque mondiale, la BAD, notamment le projet PEJAB qui promouvoit l'entrepreneuriat des jeunes en agribusiness. Vous avez le PADEM PME qui a donné un vrai coup de pouce à l'entrepreneuriat congolais. Vous avez le PRONADEC qui s'active. Vous avez le FOGEC, le Fonds de garantie qui est là. Vous avez le Fonds spécial pour l'entrepreneuriat pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et l'emploi des jeunes, excusez-moi. Vous avez tout ça et vous avez la loi. Beaucoup conduit par l'ambassade de Hollande et signé aujourd'hui par le président de la République, qui pose déjà les jalons d'un cadre légal pour l'entrepreneuriat. Tous ces matériaux sont des éléments importants aujourd'hui pour essayer de faire développer l'esprit d'entreprise. Alors, il faut saluer également la prolifération des structures d'accompagnement. Ces structures d'accompagnement qui existent, ça vient également pour renforcer cet environnement propice au développement de l'entrepreneuriat. Maintenant, il faudra que l'ANADEC puisse jouer un rôle de régulateur et fédérateur. C'est d'ailleurs l'une des recommandations des ateliers qu'on a eu à l'occasion de la foire des 15 ans de l'IS avec toutes les structures d'accompagnement qui étaient là, il y en avait 16, et que l'ANADEC arrive à jouer ce rôle de régulateur, de fédérateur, de façon à augmenter en capacité encore ces structures d'accompagnement-là et de travailler en synergie. Donc, ça, c'est ce qu'on doit faire. Et en même temps, il faut réinventer l'écosystème entrepreneurial. A dit le président de la République, c'est important. Il faudra que les acteurs de l'écosystème entrepreneurial se mettent ensemble autour d'une table pour passer en revue les problèmes qui freinent l'émergence entrepreneuriale en RDC et qu'on trouve des solutions idoines de synergie d'efforts. Un élément important, parce que ce qu'on ne fait pas, il n'y a pas de concertation du tout. Il faut qu'il y ait une concertation qui puisse permettre cela.
Bien. On va accueillir un auditeur, Kisimba de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité.
Bien, nous parlons de la promotion de la culture entrepreneuriale. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Bon, c'est juste un constat, monsieur les journalistes. Dans les sous-peuples que nous sommes, moi, j'ai remarqué ceci. C'est là qu'ils quittent les milliers ruraux pour venir s'installer dans les milliers urbains. Ce que vous appelez dans les termes quinois les mbokatiers, n'attendent pas une formation quelconque. Quand ils viennent, ce sont les gens qui ont déjà les idées, une certaine discipline à ce qui concerne l'entrepreneuriat, et même socialement parlant, ils se retrouvent très facilement. Mais par contre, les citadins, en tout cas, peut-être l'unique entrepreneuriat chez eux, c'est se construire des églises. Alors, moi, j'ai voulu un peu demander à l'invité, au lieu d'organiser autant d'ateliers, autant de formations, moi je vois que les Congolais sont paresseux, les Congolais sont têtus. Est-ce qu'ils ne font pas doser, et il n'y a pas moyen de doser, peut-être, une discipline, des mesures-là incitatives, pour te mettre fin un peu à la délinquance. Sinon, vous avez dit vous-même, messieurs les journalistes, comment un étudiant peut espérer qu'à la fin de ses études, et il commence maintenant à diriger des demandes d'emploi. J'ai l'honneur. Mais ça fait honte. Voilà pourquoi nous appelle des médiocres. En tout cas, ça fait honte. Moi, je pense, mieux vaut encourager des mesures incitatives, une discipline très dosée pour mettre fin à une certaine délinquance. Voilà un peu, messieurs les journalistes.
Bien, merci. Charles Kisimba de Lubumbashi nous dit que les villageois ont déjà la culture entrepreneuriale par rapport aux citadins. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, professeur Valmin Samba?
Nous avons aussi, lors de la sensibilisation faite par des entrepreneurs de haut niveau, Monsieur Kiwakana, le président du Conseil économique et social, l'entrepreneur de haut niveau congolais, qui nous a dit qu'on n'est pas, il nous a donné des exemples de grands hommes d'affaires qu'on a ici en RDC, qui sont des Congolais, qui sont pas passés, qui n'ont pas fait de longues études. D'accord? Et qui dirait bien aussi, qui viendrait des milieux antérieurs. D'accord. Et donc, on n'est pas effectivement obligé de passer par l'école pour devenir entrepreneur, mais on aura besoin de l'école justement pour exercer ce métier d'entrepreneur. hein, parce qu'il y a des livres de comptes à réaliser, et même s'il faut embaucher les gens, il faut savoir comment on le fait, et ainsi de suite. Et en plus, il y a ce qu'on appelle des motivations personnelles de très haut niveau, qui accompagne. Et nous, quand les gens partent en Europe, parfois ils arrivent là-bas, ils font des travaux, ils exercent un travail qui n'existerait pas dans leur pays, tu vois, parce que nécessité faisant loi. Mmh. Donc quand on se déplace, on part de l'intérieur pour la ville, et que vous avez que vous-même pour vous en sortir, vous développez encore d'autres aptitudes, notamment pour réussir dans les affaires. Ça, c'est une dimension très importante également à intégrer dans l'analyse que tu es en train de développer ou dans les questionnements de notre ami Monsieur Kisimba. Donc, il y a ça. Et donc, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut beaucoup de mesures incitatives. C'est comme ça que moi, je félicite à ce niveau-là le gouvernement avec le coup de pouce l'entrepreneuriat qu'on a eu avec le PAD MPME, les projets payables. Ce sont des formes d'incitation. La loi sur les startups, c'est une forme d'incitation. C'est vrai que ça demeure très, très, très insuffisant, mais c'est déjà un début. Et donc, on y va avec. Nous avons accompagné ici au milieu des citadins de jeunes de l'EHPAD MPME. On est passé par la voie des hommes ici. Vous avez vu les remous que ça a créé au départ parce qu'on y a mis des rigueurs. Les jeunes qui voulaient tout de suite entrer dans leur fonds et commencer à travailler. Comment vous voulez travailler dans l'entreprise alors qu'on ne vous a pas doté de compétences techniques qu'il faut? Et vous voulez tout de suite de l'argent. La rigueur là, ça a créé des remous que notre ami est en train d'évoquer ici comme aspect lié à la discipline et ainsi de suite. Donc, dès qu'on arrive à y mettre de la rigueur, eh bien, la mayonnaise peut tenir. Les Congolais souffrent de deux mots principalement, le non-respect des engagements et le manque d'efforts. Et le non-respect des engagements va avec l'état de droit parce que la sanction sociale étant disparue et ont disparu, il faut qu'il y ait une sanction juridique qui puisse revenir, remettre sur la table la sanction sociale de façon que les gens commencent à respecter le bien d'autrui. C'est un élément très important et les engagements. L'effort, effectivement, on en a presque plus dans notre pays. Ben maintenant, ça se forge. Beaucoup d'éducation, beaucoup de civisme, beaucoup de pédagogie. La réforme de l'enseignement supérieur et universitaire entre dans le même cadre. Donc, laissons le temps. On est pressé, c'est vrai, mais on va y arriver.
Bien, laissons le temps et on va y arriver. Alors, quelles sont les mesures incitatives à mettre en place pour promouvoir la culture entrepreneuriale?
Déjà, il faut féliciter la loi qui existe. Déjà, il faut beaucoup de financement de l'entrepreneuriat, tout en expliquant que seul le financement ne résout pas la question liée au développement de l'esprit d'entreprendre. Hein, et il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est tout part des prédispositions entrepreneuriales de l'individu. Le monsieur a parlé de gens qui viennent de l'intérieur venir. Ils ont une certaine prédisposition entrepreneuriale de l'individu qui doit démarrer son activité. Il y a effectivement, comme on a dit, les acteurs de l'écosystème qui doivent véritablement se mettre au service de l'entrepreneur. Parce que chez nous, c'est vraiment un parcours de combattants ici, créer une entreprise et développer notre pays. Plusieurs contraintes, que ce soit fiscales, que ce soit environnementales, au niveau de fournisseurs, au niveau des témoins. J'ai publié un article là récemment qui parle de la perversité des PME, mais qui est causée par la perversité des acteurs de l'écosystème. D'accord, les PME qui disent que voilà, ils sont dominés par leurs clients, d'accord, que ce soit des clients privés, c'est-à-dire les supermarchés ou les clients dans le domaine public, dans le marché public. Les PME qui disent qu'ils sont exploités par les institutions financières, c'est la perception que les PME ont. Les PME qui disent que les fournisseurs ne leur inspirent pas totalement confiance dans le contexte congolais, les PME qui disent qu'ils subissent une certaine hostilité communautaire par rapport à leur développement. Donc, et vous ajoutez à ça les tracasseries fiscales, l'accès difficile aux services publics, et tous ces éléments-là sont des éléments qui ne facilitent pas véritablement l'émergence entrepreneuriale. Donc les mesures incitatives doivent venir pour adoucir ce genre de contraintes, si ce n'est les effacer, et en même temps, évidemment, réinventer cet système-là, tel que ça se prend aujourd'hui.
Mais déjà, à un certain moment, parmi les mesures incitatives, on a parlé du guichet unique des créations d'entreprises. Selon les infos, en 3 jours, vous pouvez avoir les documents de votre entreprise. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se plaignent. On dit que ce n'est plus le cas. Il faut aller également faire des démarches au niveau du ministère de l'économie, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, mais je suis d'accord, mais c'est de tout ça qu'on est en train de dire, le respect des engagements et le respect aux ordres donnés par la hiérarchie pour des projets qui ont bénéficié de l'aval de gouvernement, du Parlement et ratifié au niveau international. Malheureusement, le guichet unique de création d'entreprise, par notre expérience, évidemment, octroie les documents juridiques en 72 heures, donc maximum en 3 heures pour ce qui est en 3 jours pour ce qui est de Kinshasa, mais seulement qui concerne le registre de commerce. Là, les délais peuvent être connus pour le registre de commerce, mais le délai n'est pas du tout totalement connu pour les autres documents juridiques, tels que l'identification nationale, tels que les numéros d'impôt, simplement parce que le guichet unique de création d'entreprise a du mal à fonctionner parce que les autres services qui devaient former ce guichet unique ne sont pas au même endroit. Oui, ça c'est un problème. Ça, encore une fois, ça c'est une décision gouvernementale, c'est de faire respecter les décisions qui ont été prises. Si ce service est au même endroit, eh bien, le respect des délais allait se pérenniser. C'est pareil quand vous allez au niveau de Ségus, qui s'occupe du commerce extérieur. Il faut quitter le Ségus pour aller au ministère du commerce extérieur pour obtenir les numéros import-export, les prix n'étant pas connus, le coût des transactions est élevé et les délais moins connus. C'est tout ça aussi. Du coup, tout ce qu'on met sur pied qui sont ludiques pour faire fonctionner l'écosystème entrepreneurial boite. Et quand ça boite, eh bien, l'entrepreneur est dans une situation d'insécurité qui peut faire soit il se décourage pour ceux qui ne sont pas tenaces, pour ceux qui ne développent pas la capacité de résilience. Soit alors, il entre dans les jeux que vous connaissez et que nous récusons, qui sont négatifs au développement des affaires. Mmh. Ouais, donc c'est ça, malheureusement, ces services-là. Ça demande que le président de la République puisse véritablement s'imposer. Sinon, ça n'ira pas. Nous, à un certain moment, à une certaine époque, on devait travailler en termes de climat des affaires à réduire. À faire respecter l'ordre opérationnel du chef de l'État à Loufou, où on avait trouvé 14 services au lieu de 4, mais c'était bizarre de constater qu'il y avait de résistance de tout niveau, même si on avait réussi, mais c'était un peu compliqué. Donc là, il y a des décisions qui sont prises, ce ne sont pas des décisions qui manquent, il y a des lois, il y a beaucoup de choses qui existent, mais ça demande que maintenant, qu'au niveau de lui-même, soit du Premier ministre, soit au niveau du président de la République lui-même, qu'on arrive à regarder la vérité en face, c'est donner un coup de poing pour poursuivre et faire exécuter ces décisions ludiques déjà prises à leur niveau.
Voilà, les décisions sont prises, mais il y a des résistances quelque part qui freinent,
c'est
qui continuent.
C'est un problème lié au comportement adaptatif des individus, l'inertie de comportement institutionnel et humain. Et le secrétariat national de renforcement de capacité SNAREC détient des outils nécessaires pour résoudre ce genre de problème.
Bien, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire affirmer que le guichet unique a des représentations partout à travers le pays pour permettre à la jeunesse, aux jeunes d'avoir accès facilement aux services?
Non, pas encore, ils sont en train de le faire progressivement et voilà, donc ça c'est la même problématique.
Bien, nous parlons de la promotion de la culture entrepreneuriale. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94 ou écrivez-nous à service@radiocapi.net. Nous recevons aujourd'hui le professeur Valma Samba, coach en entrepreneuriat et directeur général des IF Entrepreneuriat.
Okapi Danse. Okapi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais, d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Comment promouvoir la culture entrepreneuriale? Nous avons en ligne l'ingénieur John depuis Kindu. Bonjour.
Bonjour JR, bonjour à professeur et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation, ingénieur John?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Lors des journées scientifiques organisées par l'université MAPO, le 13 novembre de l'année passée, j'ai exposé sur la combinaison de produits agro-pastoraux locaux et j'ai présenté mon produit. Il y a eu un coordonnateur d'une ONG internationale qui a été intéressé par mon exposé. Il m'a demandé de faire un projet. D'abord, avant de me demander de faire un projet, il a dit, mais un exposé comme celui-ci, si c'était chez nous au Mali, vous alliez bénéficier des appuis et du gouvernement et des opérateurs économiques et des partenaires techniques et financiers. Et après, il m'a demandé de faire un projet. J'ai fait un projet. À la lecture du projet, il a trouvé que le projet était très bon, qu'il allait me mettre en contact avec le bailleur de fonds qui s'intéresse au programme national de nutrition. Il m'a demandé de garder l'écoute jusqu'au jour où ce partenaire-là est arrivé. Malheureusement, le partenaire est arrivé et après, je n'ai pas été invité. C'est par après que je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai été déçu, puisque les gens de la société civile, les gens du gouvernement sont venus autour du bailleur des fonds, dans cette réunion avec 8 personnes, mais il n'y avait eu personne qui avait un projet comme le vôtre. Malheureusement, il a déploré amèrement. Maintenant là, je demande au professeur, à quel niveau est-ce que je suis? Quel coup de pouce est-ce qu'il va me donner pour que je puisse parvenir à la matérialisation de ce projet-là?
Bien, merci professeur Valmasamba.
D'accord, vous savez, nous recevons des centaines et des centaines de projets par mois.
Oui.
Et on sélectionne de meilleures idées et c'est à partir des idées sélectionnées, eh bien, on peut accompagner techniquement le porteur de projet à refaire d'abord son projet suivant les normes, suivant la logique bancable, suivant l'intelligibilité de son projet et du sens qu'on l'on y met. Nous, on met l'accent sur le business model, le modèle d'affaires selon le GRP, issu de la théorie de convention, pour arriver à mieux autonomiser les porteurs de projet. Vous passez par la radio Capi, mais on peut vous envoyer nos coordonnées. On est aussi sur WhatsApp, 0-81-38-46-119. Vous pouvez nous envoyer votre projet. Mon équipe va s'en équiper, on va analyser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément parce que X personne a dit que votre projet est meilleur qu'il est réellement. D'accord? Ça peut être une très belle idée, mais peut-être pas très bien articulée en termes d'intelligence. Et donc, en ce moment, nous, notre rôle, c'est de vous aider véritablement à rendre intelligible votre projet. Donc, ça, c'est pas un problème. Vous allez nous envoyer votre projet, on va le lire et on va voir comment revenir vers vous.
Bien, professeur, il y a beaucoup de jeunes qui ont des bonnes idées. Ils veulent entreprendre, mais ils se disent toujours, avec mon idée, là, j'ai pas de financement, j'ai pas d'argent. Comment le concrétiser, etc. Bon, et beaucoup se découragent à ce niveau-là.
IF Entrepreneuriat va commencer une large sensibilisation à l'entrepreneuriat à travers tous les pays. Nous sommes en train de voir un peu quelle stratégie mettre sur pied parce que c'est un peu coûteux, véritablement. C'est pour déjà faire l'entrepreneuriat des masses. On a même créé une chaîne de télécoach.me TV pour faire la sensibilisation des masses, pour qu'on forme les gens à distance, qu'ils soient avec nous ou pas, payant ou pas, de façon qu'ils arrivent à savoir comment on peut monter son entreprise quand on n'a pas d'argent. C'est quelque chose qu'on fait. Nous-mêmes, nous sommes le résultat de cette stratégie win-win gagnant-gagnant. Faut pas réduire la question de la création d'entreprise au seul problème d'accès aux ressources financières. C'est pas toujours vrai. Et pour la plupart des cas, c'est pas vrai. Et c'est parce que simplement, on est très dépendant à l'argent qu'on croit qu'on peut créer l'entreprise parce que forcément on a l'argent. Alors qu'on peut bien avoir X partenaires qui vendent la machine que je recherche. Plutôt que de venir avec des cash pour acheter, je peux faire de lui mon partenaire, mon associé, ou je peux obtenir chez lui un crédit bail. Mais seulement, je peux peut-être avoir un problème de crédibilité parce que je n'ai pas la légitimité qu'il faut. Comment je peux chercher une autre personne qui peut se porter garant pour moi? Vous voyez, il y a tout un arsenal de stratégies combinatoires qu'on peut mettre sur pied pour arriver à démarrer une activité économique sans pour autant forcément qu'on touche du cash. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir, en fait. Il faut refaire le main de nos concitoyens par rapport à la logique entrepreneuriat. C'est comme ça que la maman qui vend au coin de rue n'est pas appelée entrepreneur. Elle est dans une activité de mitigation familiale ou ce que vous appelez des activités génératrices de revenus différents à la personne que nous sommes en train d'accompagner aussi dans une logique de pérennité et de croissance. C'est totalement différent parce que là, on a besoin des gens qui doivent véritablement défendre les couleurs économique nationale au niveau international.
Bien, on va accueillir Madame Claudia depuis la ville de Kolwezi. Madame Claudia, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour l'invité.
Vous êtes à Kolwezi, oui, en fait, dans le Lualaba. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la culture entrepreneuriale?
En fait, je voulais dire ceci. Ça fait déjà plusieurs années qu'on prêche l'entrepreneuriat. Mais on se rend compte qu'il y a toujours un obstacle. Il n'y a qu'une petite minorité de personnes qui décollent et qui émergent. En fait, ma question concerne un peu, est-ce que c'est possible de promouvoir l'entrepreneuriat dans le monde des réseaux sociaux? Parce que vous savez, de nos jours, surtout les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux en train de voir des images, des vidéos. Ils ne prennent même pas le temps de lire les textes en rapport avec l'entrepreneuriat, la NADEC, la RSP, et la GIS, tout ça. Ils n'ont pas vraiment ce temps pour. Ils n'ont pas le temps de lire. Et disons pas, ils sont toujours ignorants. Est-ce que c'est vraiment possible de leur donner une éducation d'abord sur la gestion des réseaux sociaux et de les pousser plus vers l'entrepreneuriat? Et aussi notre préoccupation. Vous savez, de nos jours, tous les jeunes ont toujours tendance à faire les politiques. Est-ce que cela ne constitue pas un frein pour eux de décoller dans l'entrepreneuriat? Parce que je pense qu'aussi longtemps qu'ils auront toujours tendance à faire la politique, d'abord dans la politique, il y a combien de fonctions pour les contenir tous? Aussi longtemps qu'ils auront toujours cette tendance à faire la politique, je pense qu'ils auront aussi du mal à décoller dans l'entrepreneuriat. C'est un peu sur la préoccupation. Merci.
Bien, merci Madame Claudia. Professeur Valmasamba.
Oui, on revient à la même chose, vous avez raison. Ça fait longtemps qu'on parle de l'entrepreneuriat, mais c'est juste un nombre assez limité de personnes qui accèdent. Madame, je sais que de plus en plus, et surtout en Afrique, les gens sont en train de prôner une sorte d'entrepreneuriat de masse, hein, où vous avez vraiment un grand nombre de personnes qui deviennent entrepreneurs. Véritablement, mais l'entrepreneuriat, c'est un métier d'élite. Hein. C'est vrai qu'on peut être nombreux, mais seuls les élus y parviennent, parce que il s'agit là de sauver des vies, il s'agit là de réduire la pauvreté, il s'agit là de rendre performante l'économie d'un pays. Donc c'est plus difficile que celui qui est embauché quelque part. Et c'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui décrochent assez rapidement. Et donc il faut beaucoup de mesures incitatives pour maintenir un grand nombre dans ce parcours de combattants-là, d'entrepreneurs. Oui, il faut sensibiliser davantage pour que de cette masse-là, effectivement, puisse sortir une crème d'entrepreneurs, comme ce qu'on avait auparavant, avant les pillages de 91-93 ou avant la pierre historica. Et parce que les jeunes qui nous suivent pensent peut-être que on a toujours été comme ça dans notre pays. Il y a lieu, radiographie, de revenir sur l'histoire pour montrer ce qui a été les Zaïre de l'époque, sa puissance, c'est important. C'est comme ça que nous, on a fait appel aux entrepreneurs de haut niveau pour que les jeunes commencent à comprendre qu'on a deux références entrepreneuriales immortelles dans notre pays, qu'il faut suivre leurs exemples parce qu'ils ont émergé dans ces contextes qui paraissent totalement difficile. Au lieu d'aller chercher des références entrepreneuriales ailleurs, Bill Gates, Tony, ou que sais-je encore, qui sont les meilleurs, mais autant mieux d'abord trouver dans votre environnement, il y en a et se rapprocher d'eux. C'est la tendance à faire la politique, tout ça c'est lié à la pauvreté. Je ne passe pas par deux mots, par trois chemins pour le dire. C'est la pauvreté qui fait ça. Les gens pensent que le chemin le plus facile c'est la politique. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, et donc je dois devenir député, je dois faire ça, et ainsi de suite, alors que en réalité, il y a d'autres alternatives. Et c'est bien qu'on ait pris à temps, à cœur, ces problèmes liés à la pauvreté et pour aller vers l'esprit, le développement de l'esprit d'entreprise, qui est l'esprit de création d'entreprise ou de faire exister un produit qui peut faire l'offre d'une entreprise, et de l'esprit d'entreprendre, la capacité à piloter cette entreprise pour qu'elle se pérennise. Les deux, esprit d'entreprise et esprit d'entreprendre, nous donnent la culture entrepreneuriale concernant la littérature. Et nous, les Congolais, on développe beaucoup plus l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire la capacité de faire exister une organisation qu'on peut appeler une entreprise ou de concevoir un produit, mais on développe moins l'esprit d'entreprendre parce que simplement, il y a tellement de contraintes que nous avons énumérées dans cette émission qui font que ça peut se décourager. Et maintenant, les mesures incitatives doivent venir justement pour essayer de recadrer les choses et aider les jeunes ou la PME ou l'entrepreneur congolais à rester devant de la scène, de rester résilient.
Bien. Alors, nous parlons de la culture de l'entrepreneuriat. Professeur Val, vous avez dit déjà au niveau de nos institutions universitaires, il y a un cours sur l'entrepreneuriat, bien que c'est pas encore, c'est encore minime. Alors, qu'est-ce qui peut être fait au niveau des étudiants? Est-ce qu'il est possible à un étudiant de devenir déjà entrepreneuriat tout en étant à l'université?
Oui, mais partout ailleurs, c'est comme ça. Dans les pays anglo-saxons, tu comptes. Vous comptez une proportion à créer une entreprise qui est très élevée, tout à fait normal. Nous, on a même mis sur pied avec Wazekwa et Nyatalongo une chanson entrepreneuriat pour sensibiliser ces différentes couches. Donc, on peut avoir des étudiants entrepreneurs, mais seul le cours d'entrepreneuriat ne suffit pas. Ça serait peut-être trop académique. Il faut que dans les universités, que l'on crée des structures d'accompagnement à l'intérieur des universités qui apportent la pratique des affaires, le coaching, le mentorat, le tutorat, le counseling, des formations dédiées, adaptées, au-delà de simples cours que l'on doit dispenser. Ça, c'est un élément très important et il faut commencer très tôt. De la première année, de façon à ce que l'étudiant en question soit coté aussi et par rapport à son activité entrepreneuriale et par rapport à ses activités théoriques traditionnelles. C'est néanmoins, l'ascension est toujours importante dans un milieu en fait de culture entrepreneuriale. Il faut y aller avec des pratiques qui concilient la simple volonté de la personne à la sanction. Et ici, la sanction à l'université passe par les notes que l'on donne, peut-être une forte pondération par rapport à ce cours-là. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire et il faut encourager qu'il y ait beaucoup de création de structures d'accompagnement. Il faut que les acteurs de l'écosystème entrepreneuriat se concertent véritablement et mettent leurs offres au service réel de l'entrepreneur que d'extrapoler, parce que là, franchement, ils extrapolent. Et puis, il faudrait que l'ANADEC joue un nouveau rôle de régulateur, de fédérateur. Et en même temps, il faut que le gouvernement demeure vigilant. La vigilance du gouvernement est très importante. La guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi une guerre économique. Plus on devient fort économiquement, plus on aura les moyens nécessaires pour essayer de mieux sécuriser nos frontières. Et donc ça, et plus on est fort économiquement, plus le Congolais va redevenir cette personne que tout le monde a beaucoup chéri, aimé dans le passé. Tout le monde voulait venir vivre au Congo, au Zaïre. Tout le monde a étudié ici en Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu la rugée de tout le monde, alors que nous étions les meilleurs.
Alors, professeur, est-ce qu'on peut affirmer que l'entrepreneuriat est la seule voie de sortie de la pauvreté?
Il n'y a que l'entreprise qui crée de la richesse, hein, mon ami. Il n'y a que l'entreprise qui crée la richesse. Une ONG, une ASV ne crée pas de la richesse. D'ailleurs, la définition même de ces organisations le stipule. Il n'y a que l'entreprise qui crée de la richesse. Donc, plus on crée des entreprises, plus on crée de la richesse, plus on résorbe le chômage, plus les gens ont des revenus. Et donc, plus on va voir maintenant cette création de richesse va se traduire en une transformation de comportement, les mentalités des gens vont changer, on va accéder à un niveau d'instruction encore plus élevé, et donc on arrive au développement. C'est ça la définition du développement. Sans création de la richesse, comment peut-on parler d'un développement alors que les transformations, la richesse n'a pas permis cette transformation de mentalité. Vous savez, on est là à un taux de croissance, à un seul chiffre de 5,9. Si on avait réussi à 2016 et qu'il n'y ait pas eu assez de couacs, aller vers l'alternance, on aurait dû peut-être passer aujourd'hui à une croissance en deux chiffres. Et la croissance en deux chiffres allait ipso facto se traduire à un recul de la pauvreté. Et ça, on aurait dû le voir. Mais la croissance, qui crée la croissance? C'est l'entreprise, que ce soit les entreprises localement créées, que ce soit les entreprises qu'on appelle des investissements directs étrangers. Ce sont ces entreprises qui apportent ce type de croissance. Ce ne sont pas des ONG. Il faut qu'on fasse très attention par rapport à ça. Les ONG peuvent contribuer à sensibiliser les gens à l'entrepreneuriat, mais ces personnes doivent créer des entreprises qui soient durables.
Comment promouvoir la culture de l'entrepreneuriat? Vous avez des questions, vous êtes entrepreneur, vous pouvez participer rapidement en nous appelant au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Comment promouvoir la culture de l'entrepreneuriat? On en parle aujourd'hui avec le professeur Val Massamba, coach en entrepreneuriat et directeur général des IF Entrepreneurial, qui est une structure d'accompagnement des entrepreneurs. Le professeur Val Massamba, à ces jours, combien d'entrepreneurs ont bénéficié de votre accompagnement et aujourd'hui, ils ont des entreprises qui marchent bien? Professeur Val.
En 15 ans, on a réussi à éclore 1486 entreprises, presque 1500, qui sont fonctionnelles sur les territoires congolais et même d'ailleurs jusqu'en Afrique du Sud. Ça fait 1486 entreprises, c'est à peu près 16 000 emplois créés directement et près d'un demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires qu'elles réalisent ensemble chaque année. Mais on a eu à sensibiliser à l'entrepreneuriat, ça c'est l'aspect à sensibiliser, et on a eu à sensibiliser plus de 40, 50 000 personnes à l'entrepreneuriat par voie physique ou par voie de zone, par les médias. Ça c'est ce qui est important, c'est pour ça qu'on en est fiers. On a, nous, inspiré un des modèles de la Banque mondiale de notre site de centre de PME au pays, parce que nous étions là. La première structure a expérimenté le centre de PME que nous appelons quartier industriel pour petites industries pour nous, en Bazangourou, et qui a fait pousser toute une cité dans un endroit qui était totalement désert, mais toute une cité est née grâce à cette action-là. Et donc, on s'est lié notre rentabilité aujourd'hui. On compte au moins 41% de femmes qui sont des entrepreneurs, c'est aussi une performance. Par rapport à ça, sachant bien entendu que les femmes décrochent assez vite lorsqu'on les accompagne, véritablement en raison du mariage et des études. Mmh.
Voilà. Et vous avez travaillé aussi dans le cadre du projet PADEM PME. Aujourd'hui, quel bilan on peut faire de ce programme?
Hyper positif. Un bilan hyper positif, parce que le PADEM PME, d'abord, c'est un environnement moins non corrompu. C'était une sélection totalement de très haut niveau, avec rigueur, avec des techniques de due diligence de très haut niveau pour la sélection. Deuxièmement, on a réussi à accompagner des PME qui ont augmenté sensiblement leur chiffre d'affaires, leurs effectifs employés, qui sont dotés en capacité technique avec des usines moyennement de haut niveau. On a vu comment il y a eu trop de transition des micro-entreprises qui sont devenues des petites entreprises qui sont devenues des moyennes entreprises et des moyennes entreprises qui deviennent de grandes entreprises. Et ça, c'est un franc succès. Et ce projet, vous savez, qui devait durer 3 ans, mais en moins d'une année et demie, avait déjà fait exploser tous leurs indicateurs du PADEM PME. Et ce qui a fait que ce projet PADEM PME a fait naître le projet Transforme, que tout le monde attend aujourd'hui à pied ferme. Et donc oui. Ça, c'est un franc succès. Il faut féliciter le coordinateur du projet qui a développé un esprit d'écoute et de collaboration de tout niveau avec son équipe. Sans citer le ministère des PME qui a conduit ce projet par vraiment main de maître, c'est assez présent pour suivre, pour orienter, et ça c'est super. C'est pour moi une première fois de voir une telle collaboration gouvernementale avec le projet et les firmes internationales de mise en œuvre. Donc c'est un franc succès. Donc je félicite les membres de notre consortium Deloitte IFF qui vont entrepreneur, mais aussi KPMG ISP et nous-mêmes et bien les autres également, IBF, Congo Challenge, Onifam, voilà, le PADEM PME, c'est un franc succès.
Oui, alors on parle aujourd'hui du projet Transforme. Quelle sera la particularité de ce programme?
D'abord, évidemment, il faudra questionner ici le PADEM PME qui est un auteur, mais je peux donner les informations à m'apporter. C'est un financement qui part de 100 millions de dollars au PADEM PME à 300 millions de dollars dans Transforme, dont la moitié vient en termes de dons, parce que c'est un prêt de la Banque mondiale. Il faut remercier aussi la Banque mondiale en passant, pour s'être impliqué totalement dans ce coup de pouce à l'entrepreneuriat congolais. Deuxième innovation, c'est que on a ajouté 3 autres villes, au-delà de 4 villes qu'on avait avant. Il y a Bounia qui est entré en jeu, il y a Mbujimayi et il y a Kananga. Et ça, c'est vraiment innovaté. Et puis, troisième originalité, c'est que, ayant compris que les forces productives se reposent également au niveau des femmes, le projet PADEM PME a mis beaucoup d'accent sur la promotion entrepreneuriale des femmes en soutenant des femmes entrepreneurs établies. Et quatrième innovation, je crois, c'est le fait qu'il y aura un coup de pouce au secteur financier de façon à l'aider à mieux adapter ses offres de financement aux besoins de la demande locale entrepreneuriale.
Bien. Donc, et ce projet Transforme démarre quand exactement dans l'année prochaine?
On vient de nous dire qu'il y a moins de 10 jours, le président public a signé tout le nécessaire pour que ce projet démarre. Donc, en principe, je crois peut-être au mois de janvier, février, la coordination du projet peut déjà entamer les premières actions du projet Transforme.
Bien, on va terminer cet entretien avec la question d'Alphonse depuis Ngbokolo, en Ituri. Bonjour Alphonse.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité. En tout cas, je suis très intéressé par ce sujet, Jody. Alors, je vous ai suivi attentivement, Jody. Vous avez parlé des mesures incitatives et ainsi de suite. Et quand j'étais en train de vous suivre là, je me dis, j'ai eu des formations, de grandes formations sur les greffages de manguiers. J'ai eu des grandes formations, des bonnes formations sur la reproduction de bananiers. Alors, je suis en train de me demander, quand je suis en train de vous suivre, vraiment, ça me met très à l'aise, mais je me dis, est-ce que l'invité peut m'aider à, par exemple, à me mettre en contact avec d'autres organisations qui peuvent m'appuyer dans ce sens-là, ou bien lui-même peut, par exemple, me donner des idées pour comment démarrer cette activité, parce que je sais que c'est encore rare dans les milieux et ça peut générer beaucoup de recettes, et surtout pour les jeunes qui sont dans la majorité des chômeurs. Ça peut vraiment être une entreprise qui peut donner de l'emploi à beaucoup de jeunes. Alors, c'est ça ma question. Je voudrais que l'invité puisse nous aider. Comment je peux y parvenir?
D'accord. Merci beaucoup, Jody. Merci à vous, professeur Valmasamba.
Oui, comme je disais à l'ami qui a posé encore la même question, l'autre fois, mon numéro, c'est le 081-38-40-619. Vous pouvez m'écrire directement là-dessus en précisant que vous êtes passé par la radio Capi. Et je vais mettre en contact avec mes collaborateurs pour ça. Vous savez, maîtriser un métier, c'est une chose, mais utiliser ce métier dans le cadre de l'entreprise, c'est encore une autre chose. Hein, parce que ça demande une autre façon de travailler encore par rapport à l'existence d'une demande réelle de votre produit. Est-ce que si on a autant de demandes, est-ce que dans votre milieu, il y aura une demande réelle? Ou comment vous arrivez-vous à proposer votre produit à la clientèle étant donné le contexte dans lequel vous vivez? Il y a toutes ces analyses-là qu'il faudra d'abord mener avant de lancer son activité. Mais on va vous donner des conseils. On le fera gratuitement parce que vous êtes passé par la radio au Capi. De toute façon, on accompagne toujours gratuitement. Mm-hmm. Vous avez notre numéro. Vous pouvez nous envoyer vos desiderata et on saura comment vous répondre.
Bien. Professeur Valmasamba, coach en entrepreneuriat et directeur général de IF Entrepreneuriat, qui est une structure d'accompagnement des entrepreneurs. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie et au revoir.
Au revoir.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Servisa. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à servisa@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Ocapi Service.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine de la vie au quotidien. Au Capi Service, merci de nous avoir suivis. Alain Goy était à la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la réalisation, Marcel à la coordination, au micro aujourd'hui Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir, restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine. Il est 12h à Kinshasa.